Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins passent le bac tous les jours cette semaine en compagnie de Marianne Chassor, Jean-Daniel Loup, Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie et Antoine Ravon. À la lecture des textes cette semaine, Olivier Martineau. À la réalisation de mentions très bien, Rafik Zénine. Avec à la prise de son, un duo, Frédéric Kérou et Alexandre James. À 10h47, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous aidera elle aussi à préparer l'épreuve de philo du bac en vous invitant aujourd'hui à lire un livre utile à sa préparation. Semaine spéciale bac philo, 4e et dernier temps. Comme chaque année, les nouveaux chemins vous aident à préparer l'épreuve de philosophie du bac qui aura lieu le lundi 16 juin prochain où vous font revivre vos souvenirs heureux ou douloureux de terminale en donnant la parole à 4 professeurs qui, devant leur classe, vous proposent l'analyse et le développement d'un sujet qu'ils ont eux-mêmes choisi. Cette année, c'est le lycée français Jean Monnet de Bruxelles qui nous a ouvert ses portes et nous a accueillis, bière et chocolat dans une main, stylo et copie dans l'autre, le temps d'une journée en janvier dernier, pour y enregistrer 4 émissions en compagnie de professeurs et d'élèves tous plus concentrés et chaleureux les uns que les autres. Cette série d'émissions vous est proposée en partenariat avec Philosophie Magazine, qui, comme chaque année, publie ce mois-ci un hors-série spécial Bac Philo. Aujourd'hui, dernière épreuve avant le soulagement, ou plutôt avant la dernière ligne droite jusqu'au bac, c'est Hugues Marmina, grâce à qui nous avons pu aller enregistrer ses émissions au lycée français de Bruxelles, qui a choisi de plancher sur le sujet suivant, la technique est-elle naturelle à l'homme ?
Bonjour, je m'appelle Kevin. Donc, si je tombe sur ce sujet directement, je pense à tout ce que l'homme a fait pour améliorer son confort, que ça soit positif ou négatif, comme les armes. D'abord, ça servait à tuer les animaux pour se nourrir, mais après à tuer d'autres hommes.
Bonjour, je m'appelle Linda. Je pense à Hobbes et l'état de nature peut-être. Et je me demande si à l'état de nature, il y avait la technique ou pas. Et puis peut-être ça va m'aider à décider si la technique est naturelle à l'homme. Parce que si à l'état de nature, il y avait déjà la technique, ça veut dire que c'était naturel à l'homme.
Bonjour, je m'appelle Hélène. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, la technique, mais je crois déduire que c'est une certaine manière d'agir que l'on choisit pour mener notre action de la meilleure manière qu'on puisse. Et ça me fait penser que les animaux aussi ont des techniques, des techniques différentes pour survivre et pour, par exemple, chasser, etc. Et donc, à premier abord, je dirais que ce n'est pas naturel à l'homme, ou pas seulement à l'homme, mais plutôt peut-être aux êtres vivants. Ça me ferait peut-être penser à Machiavel qui nous explique comment... Enfin, justement, la technique pour diriger les hommes, par exemple.
Bonjour, je m'appelle Ania. Moi, la technique, ça me fait penser que c'est un peu ce qui a permis à l'homme de s'organiser et justement de développer la société. Et donc, moi, ça me pensait plutôt à ça. Voilà.
Bonjour, Hugues Marmina.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
C'est une joie de vous accueillir. Enfin, c'est vous qui nous accueillez, en fait, puisque nous sommes à Bruxelles, au lycée français Jean Monnet de Bruxelles, où vous enseignez. Et d'ailleurs, vous êtes venu ici accompagné de votre classe de terminale littéraire, que je salue au passage. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et ils sont toujours aussi motivés que ça ?
Toujours.
Bon, vous avez bien de la chance. Alors, vous nous avez proposé un sujet aujourd'hui. La technique est-elle naturelle à l'homme ? On a donné la parole à vos élèves avant de commencer cette émission. Et c'était assez intéressant de voir que chacun s'arrêtait sur un terme différent, la technique ou la nature ou l'homme. Et c'est exactement comme ça qu'il faut procéder face à un tel sujet, n'est-ce pas ?
Exactement. C'est la particularité et la complexité du sujet, c'est que chacun des termes qui le composent est lui-même extrêmement complexe et source de problèmes. Donc il faut absolument, avant de se lancer même dans une réponse, analyser les termes du sujet pour voir en quoi chacun d'entre eux est problématique. Et je crois que tous les aspects de la problématique ont été abordés par les élèves. Dans un premier temps, le mot technique est lui-même très ambigu, très général. Il renvoie d'abord à l'habileté, au savoir-faire. Et bien sûr, on peut penser, comme le disait Kevin, au premier silex, à la maîtrise du feu, puis aux machines, puis aux nouvelles technologies. Mais il va de soi que la question n'est plus tout à fait la même selon qu'on entend par technique un outil qui prolonge le pouvoir du corps. Quand on parle de la machine, où là le corps humain est en quelque sorte plutôt le prolongement du pouvoir automatique de la machine et des nouvelles technologies. Donc il me semble particulièrement important pour un sujet comme celui-là de peut-être dégager rapidement et de façon peut-être un peu caricaturale trois âges de la technique. L'outil manuel, l'outil qui prolonge le pouvoir de la main, le marteau, la scie, etc. L'outil manuel, la machine, hein, l'âge de la machine, de l'ingénierie, où la technique devient un savoir appliqué, une science appliquée, et où les pouvoirs de la technique sont démultipliés. Et enfin, un troisième âge peut-être, les nouvelles technologies qui vont jusqu'à modifier notre comportement, nos façons d'être, nos façons de penser, et peut-être même notre propre corps. Dans un deuxième temps, ce qui est problématique dans ce sujet, c'est la notion de naturel. Alors là, c'est un terme très très vague. Naturel, c'est d'abord ce qui appartient à la nature d'un être. C'est ce qui est ici relatif à la nature humaine. Donc la question devient, l'homme est-il naturellement technicien ? Est-ce qu'on peut définir l'être humain comme un être qui fabrique des outils et qui les utilise ? Est-ce ça sa caractéristique principale, fondamentale ? Est-ce plus fondamental de définir l'homme par la technique que par le langage, la pensée, le rire ? Hein ? L'homme est un être qui parle, l'homme est un être qui pense, l'homme est un être qui rit. Est-ce que la technique n'est pas plus fondamentale que ces caractéristiques-là ? Est-ce que ça n'est pas par la technique que toutes ces autres facultés se sont développées chez l'homme ?
Et surtout dire que la technique est naturelle, c'est dépasser l'opposition entre la nature et la technique, comme si la technique venait dans un second temps. C'est comme si finalement l'aspect technique de notre existence nous était tout aussi premier que l'aspect naturel.
Absolument. Ça, c'est justement, il y a un deuxième sens du mot naturel qui signifie inné. Hein ? C'est naturel à l'homme, ce serait inné à l'homme. Ce serait ce que l'homme possède en naissant. Et de fait, l'homme, enfin, aussi loin qu'on remonte, l'homme est toujours déjà outillé. Il n'y a pas d'âge pré-technique de l'humanité. Et à vrai dire, les préhistoriens ou les paléontologues repèrent l'existence de l'humanité à partir des premiers outils. C'est la seule marque extérieure et objective qu'on ait de la présence humaine. Ce ne sont pas des paroles, par définition, qui se sont évanouies. Ce ne sont pas des pensées qui sont abstraites, ce sont des objets concrets. Nous savons qu'il y a eu présence humaine à partir du moment où nous repérons les outils.
Alors que faites-vous de ce troisième terme important du sujet, l'homme ? Est-ce que son sens est tellement évident qu'on a l'impression qu'il ne faut pas le définir ?
Excusez-moi Adèle, il y a un troisième sens du mot naturel.
Ah, alors je vais trop vite en besogne, allez-y.
Et qui me paraît intéressant, même si c'est un sens faible. Naturel signifie ce qui correspond à l'ordre habituel des choses. C'est ce qui est considéré comme normal. Hein ? Quand on dit c'est naturel, c'est que ça va de soi. Et ça, ça me semble intéressant pour interroger les technologies les plus contemporaines. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie ne s'impose pas à nous comme une évidence, comme quelque chose qui va de soi, comme quelque chose dont on ne peut absolument pas se passer, comme quelque chose qui s'impose à nous, peut-être comme une seconde nature, hein, qui ferait de nous un être technicien irrémédiablement, hein, sans alternative possible, sans retour en arrière possible. Donc, la technique moderne n'est-elle pas devenue si omniprésente, si normale qu'on ne peut plus s'en passer. Voilà. Et ça nous permettrait d'interroger le fait que nous sommes devenus des utilisateurs compulsifs de nouvelles technologies.
Alors là, vous en êtes déjà à une forme de conclusion.
C'est ça.
D'accord. Et donc, dès l'analyse du sujet, vous avez déjà en tête une direction,
oui,
vers laquelle vous voulez aller.
Exactement.
Est-ce que vous conseillez ça aux élèves si, face à un sujet, il peut arriver d'avoir un parti pris, d'avoir une opinion assez fermement établie sur un sujet ? Peut-on et faut-il prendre parti au sein de la dissertation ?
Ça me semble fondamental. C'est ce qui va distinguer une copie scolaire d'une autre. On demande aux élèves, dans l'exercice de la dissertation, à la fois de faire preuve de culture, de connaissances, mais fondamentalement de réfléchir par eux-mêmes. Il est fondamental de trouver dans la copie des marques de la singularité de leur pensée. Ils doivent prendre parti, bien sûr, si possible, en évitant l'opinion arbitraire, on va dire.
Mais c'est ce que j'allais dire quand même. On oppose, et surtout dans les cours de philosophie en terminale, on apprend que la philosophie est l'inverse de l'opinion. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de penser quelque chose pour forcément avoir raison. Il faut apprendre à penser contre soi-même. Si vous dites que nous pouvons affirmer notre opinion au sein d'une dissertation, est-ce que le risque n'est pas de passer à côté de l'intérêt philosophique d'une réflexion ?
Alors, il s'agit de transformer, vous avez raison, il s'agit de transformer l'opinion en thèse. Il faut absolument l'argumenter, la justifier. Et dans ce cas-là, elle est parfaitement admise, elle est même réclamée.
Bien, alors on passe au troisième terme du sujet.
Troisième terme du sujet.
Qu'est-ce que vous faites face à l'homme ?
L'homme. Qu'est-ce que je fais face à l'homme ? Alors, l'homme désigne le genre humain par opposition au reste des animaux. Donc, il y a un aspect de la problématique qui a été soulevé ici, qui était intéressant. C'était Hélène hein, qui avait relevé...
Une de vos élèves, oui.
Oui, oui, qui avait relevé ce problème. Est-ce que l'homme est le seul animal technicien ? La technique est-elle naturelle à l'homme ? N'est-elle naturelle qu'à l'homme ? Est-elle le propre de l'homme ? Que fait-on des autres animaux qui semblent avoir une activité technique ? L'araignée, l'abeille, le castor, et pourquoi pas les grands singes qui font tomber des arbres, les noix de coco avec leurs branches. C'est aussi un outillage technique. Est-ce que la technique n'est naturelle qu'à l'homme ou bien est-ce qu'elle est tout simplement naturelle ? L'homme n'étant que l'animal le plus technicien peut-être. Est-ce qu'il y a une continuité entre ce qu'on trouve dans la nature et notamment chez les animaux et l'homme, ou bien est-ce que l'homme marque une rupture dans l'évolution animale? Et enfin, il me semble que ce terme est très trop général. Est-elle naturelle à l'homme? Mais de quelle humanité parle-t-on? Tout à l'heure, on a dit la technique. De quelle technique parle-t-on? Ici, on parle de l'homme, mais de quel homme parle-t-on? La question n'a pas le même sens selon qu'on parle de l'homme fabricant d'outils, de l'artisan, de l'ingénieur, et de l'homme utilisateur de ces outils, consommateur de techniques et de nouvelles technologies. La question n'est plus du tout la même.
Et d'ailleurs, la formulation « à l'homme » et non pas « aux hommes » oui. conduit, invite l'étudiant, enfin l'élève, à interroger ce caractère général
tout
de l'homme.
Fait.
Et comme il doit se comporter presque comme un chirurgien face à chaque sujet qu'on lui propose, bah, il nous reste un terme quand même aussi là à analyser, qui paraît là encore plus évident. Est-elle ? Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ce terme interroge ? Il passait le verbe « être » est le plus neutre possible, et pourtant il y a un présupposé derrière qu'il faut arriver à déceler.
Absolument. Ici, le verbe « être » est... Voilà, présenté dans sa façon classique, dans un présent de vérité générale qui semble renvoyer à une essence, à un être permanent de l'homme. Y a-t-il une nature humaine permanente ? Est-ce qu'au contraire, la technique n'est pas le phénomène qui fait évoluer de façon même aujourd'hui ultra rapide l'être humain ? Est-ce que ça a encore un sens de parler de nature humaine ? Est-ce que la technique ne nous invite pas justement à dépasser la distinction conceptuelle rapide entre naturel et artificiel. Est-ce que la nature de l'homme, ce n'est pas l'artifice ?
Est-ce que ce serait votre problématique ?
Ce serait un des aspects de la problématique.
Est-ce que vous pouvez essayer de la formuler avant qu'on passe au cœur de la rédaction de la dissertation ? Le sujet pose une question et pourtant la problématique consiste à formuler une autre question présente dans la question.
C'est ça. Ce serait intéressant de partir du paradoxe du sujet. Définir la nature de l'homme par... sa faculté de produire des objets artificiels, c'est en soi étonnant et un peu même provocateur, je dirais. Cette question semble absurde si on la prend au pied de la lettre. Seulement, elle renvoie au fait que, aussi loin qu'on remonte, la technique, elle est déjà là, elle est déjà disponible. Et en ce sens, elle est bien naturelle à l'homme, elle a toujours été à sa disposition, elle a toujours été associée à lui. Mais dans un deuxième temps, peut-être, il faudrait insister sur le fait que la technique n'est pas seulement un fait naturel, qui, par exemple, dériverait des capacités organiques de l'homme, du fait qu'il a des mains, mais que la technique est un fait culturel. La technique fait entrer l'homme dans l'histoire, et dès lors, la technique est plutôt du côté de l'acquis que de l'inné, du progrès que de la nature humaine permanente. Et dans un troisième temps, justement, la technique, en devenant notre milieu, une espèce de technosphère, de technocosme, le milieu permanent de notre développement de vie, est-ce que ça ne modifie pas complètement la nature même de l'homme ? Est-ce que l'homme n'évolue pas au rythme de ses techniques ?
Est-ce que le plan en trois parties est indispensable ou est-ce que c'est une option ?
Pas vraiment, mais on va dire que c'est une coquetterie. Voilà.
Anaxagore prétend que c'est parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des animaux. Ce qui est rationnel plutôt, c'est de dire qu'il a des mains parce qu'il est le plus intelligent, car la main est un outil. Or, la nature attribue toujours, comme le ferait un homme sage, chaque organe à qui est capable de s'en servir. Ce qui convient en effet, c'est de donner des flûtes aux flûtistes, plutôt que d'apprendre à jouer à qui possède des flûtes. C'est toujours le plus petit que la nature ajoute au plus grand et au plus puissant, et non pas le plus précieux et le plus grand au plus petit. Si donc cette façon de faire est préférable, si la nature réalise parmi les possibles celui qui est le meilleur, ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. En effet, l'être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d'outils. Or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres. C'est donc à l'être capable d'acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l'outil de loin le plus utile, la main. Aussi, ceux qui disent que l'homme n'est pas bien constitué et qu'il est le moins bien partagé des animaux, parce que, dit-on, il est sans chaussures, il est nu, il n'a pas d'armes pour combattre, sont dans l'erreur. Car les autres animaux n'ont chacun qu'un seul moyen de défense, et il ne leur est pas possible de le changer pour faire n'importe quoi d'autre. Et ne doivent jamais déposer l'armure qu'ils ont autour de leur corps, ni changer l'arme qu'ils ont reçue en partage. L'homme, au contraire, possède de nombreux moyens de défense. Et il lui est toujours loisible d'en changer, et même d'avoir l'arme qu'il veut et quand il le veut. Car la main devient griffe, serre, corne, ou lance, ou épée, ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela, parce qu'elle est capable de tout saisir et de tout tenir. La forme même que la nature a imaginée pour la main est adaptée à cette fonction. Elle est en effet divisée en plusieurs parties. Et le fait que ces parties peuvent s'écarter implique aussi pour elles la faculté de se réunir, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Il est possible de s'en servir comme d'un organe unique, double ou multiple.
Hugues Marmina, en présentant votre plan, vous avez donc suggéré de commencer dans une première partie avec, en élaborant ce qu'on peut appeler une thèse, qui serait que la technique est naturelle à l'homme. C'est Aristote qui peut nous aider à argumenter en ce sens. On vient d'entendre un extrait de la partie des animaux, le livre 9 de Partie des animaux d'Aristote, texte dans lequel Aristote dit qu'en effet l'homme serait naturellement doté d'outils, on peut dire même d'outils techniques, et même serait doté de manière plus favorable que les autres animaux, puisqu'il peut lui-même faire une utilisation plus libre de ses outils.
Absolument. La question que se pose Aristote est la suivante. D'où vient le fait technique chez l'homme? Est-ce que ça lui vient de l'extérieur, d'un don divin, ou du vol du feu, comme Platon le suggère dans le mythe de Prométhée, dans Protagoras? Ou bien est-ce qu'il est naturellement doté de ce qui lui est nécessaire pour exercer une activité technique? Il opte pour la deuxième option. Le corps humain est fait pour la technique. La nature ne fait rien en vain. Chaque organe est destiné à une fonction biologique précise. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des pieds pour marcher. Mais l'homme possède un organe très particulier, un membre très particulier qui ne semble pas avoir d'usage prédéterminé. Pourquoi ? Parce qu'il est au service de l'intelligence qui va inventer les usages possibles de cette main.
La main. Cet organe, c'est la main.
Organe, c'est la main. La main est peut-être de tous les organes du corps le moins spécifiquement lié à une fonction. Il n'a pas de fonction propre parce qu'il peut servir toutes les fonctions auxquelles l'intelligence va la disposer. C'est l'organe le plus souple, c'est l'organe qui peut devenir griffe, serre, qui peut tout saisir, tout tenir. La main en elle-même est extrêmement changeante, contingente, elle peut prendre toutes les formes, elle peut devenir elle-même outil, c'est une espèce de boîte à outils ou une espèce de couteau suisse. Hein, quand on ouvre sa main, toutes les possibilités sont là. Lorsque je la ferme, elle peut devenir agressive ou avoir la forme d'une masse. Lorsque je la tends, au contraire, elle est plutôt un signe amical, je peux agripper quelque chose et le lancer, et ainsi de suite. La main semble naturellement indiquée comme étant le prolongement naturel de l'intelligence. Et c'est là qu'intervient la thèse d'Aristote, qui me semble particulièrement intéressante, même si scientifiquement elle est discutable, c'est que c'est parce qu'il est intelligent qu'il a des mains.
Et non pas parce qu'il a des mains que son intelligence s'est développée.
C'est ça. C'est-à-dire que la thèse d'Aristote, elle est à la fois fixiste, c'est-à-dire que l'homme est tel qu'il est depuis le départ. Donc il a des mains. Ses mains ne sont pas apparues à un moment donné. Pourquoi en a-t-il ? Mais parce que la nature, qui ne fait rien en vain, elle ne fait rien au hasard, ne va pas donner des mains à un animal dépourvu d'intelligence. Qu'en ferait-il ? Il resterait les bras à ballant, je dirais, hein, ou les mains dans le dos. Elle a donné des mains à l'homme parce qu'il a la capacité intellectuelle qui lui permet de démultiplier ses usages. Ce à quoi on peut penser, c'est à tous les usages extraordinaires de la main, non seulement les usages techniques, mais artistiques. La main du violoniste, hein, qui, avec son archet et son violon, la main de l'artiste, la main de l'écrivain, etc.
Mais il y a un présupposé derrière ce que vous dites, c'est que si la nature a doté l'homme de mains parce qu'il est intelligent, c'est donc que la nature fonctionne selon un plan, un dessin, qu'elle est elle-même intelligente et qu'il y a un but, il y a un dessin téléologique que nous devrions suivre. Or, il n'est pas du tout évident que l'homme ait des mains pour une raison.
Exactement. C'est le deuxième défaut de la thèse d'Aristote. Le premier, c'est qu'il est fixiste. Et le deuxième, c'est qu'il est finaliste. La nature est intelligente, elle ne fait rien au hasard. Si elle a donné des mains à l'homme, c'est pour de bonnes raisons. Et le propre de la philosophie d'Aristote, c'est de chercher la raison d'être des choses. Démarche avec laquelle la science moderne va complètement rompre. Pour donner plutôt raison en fait, à Anaxagore, auquel s'oppose Aristote, c'est parce qu'il a des mains qu'il est devenu intelligent.
Alors, avant d'en venir à la deuxième partie, puisque vous montrez les limites d'Aristote, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous permettraient de tenir un peu plus loin cette thèse initiale selon laquelle la nature serait naturelle à l'homme ?
Je pense à Leroy Gourhan, notamment, cet anthropologue français qui, lui aussi, à la suite d'Aristote, donne au couple main-intelligence un rôle fondamental dans le développement technique et social et cognitif de l'homme.
La main, à l'origine, était une pince à tenir les cailloux. Le triomphe de l'homme a été d'en faire la servante de plus en plus habile de ses pensées de fabricant. Du paléolithique supérieur au XIXe siècle, elle a traversé un interminable apogée. Dans l'industrie, elle joue encore un rôle essentiel, par quelques artisans outilleurs qui fabriquent les pièces agissantes des machines, devant lesquelles la foule ouvrière n'aura plus qu'une pince à cinq doigts pour distribuer la matière, ou un index pour appuyer sur le bouton. Encore s'agit-il d'un stade de transition, car il n'est pas douteux que les phases non mécaniques de la fabrication des machines s'éliminent peu à peu. Il serait de peu d'importance que diminue le rôle de cet organe de fortune qu'est la main. Si tout ne montrait pas que son activité est étroitement solidaire de l'équilibre des territoires cérébraux qui l'intéressent. Ne rien savoir faire de ses dix doigts n'est pas très inquiétant à l'échelle de l'espèce, car il s'écoulera bien des millénaires avant que régresse un si vieux dispositif neuromoteur. Mais sur le plan individuel, il en est tout autrement. Ne pas avoir à penser avec ses dix doigts équivaut à manquer d'une partie de sa pensée normalement, phylogénétiquement humaine. Il existe donc à l'échelle des individus, sinon à celle de l'espèce, dès à présent, un problème de la régression de la main.
Mais alors ce texte est tout à fait dans la lignée de celui d'Aristote.
Ce texte est tout à fait dans la lignée de celui d'Aristote, si ce n'est qu'il s'inscrit dans une démarche biologique contemporaine qui intègre le fait évolutif. Hein. L'homme n'a pas des mains, les mains se sont libérées. L'homme, en se redressant, a transformé en quelque sorte les membres supérieurs qui étaient des membres de locomotion. En se redressant, l'homme a à la fois développé la capacité de son cerveau et a libéré ses mains. Mais par la suite, effectivement, la continuité entre le texte d'Aristote et le texte de Leroy Gourhan est très claire. Il réfléchit ici sur la manière dont le cerveau, dont la main et dont le langage ont pu se produire réciproquement. Il y a clairement une corrélation entre le cerveau et la main. Et ici, il y a un contraste entre le début du texte et la fin. Le début du texte est très aristotélicien. La main était au départ un outil et elle est devenue plusieurs outils. Elle est devenue un outil à faire des outils. Et tant que l'humanité était dans sa phase, je dirais, artisanale, la main a été l'organe privilégié de la technique. Mais il nous dit dans la deuxième partie du texte que, à la lumière de l'évolution, la régression du rôle de la main risque d'affaiblir la pensée des individus. Quand on entre dans l'âge des machines, l'usage de la main devient moins important. Elles actionnent un processus dont elles ne sont plus tout à fait maîtres. Et on pourrait penser même aujourd'hui à l'usage des nouvelles technologies qui n'étaient pas contemporaines de Laura Gourhan. Lorsque nos pouces ou notre index envoient une application sur un iPhone...
C'est le sens du livre de Michel Serres.
C'est le sens du livre de Michel Serres, Petite Poussette, qu'on citera peut-être à la fin. Mais lorsque la main est réduite à ses pouces ou à lancer une application sur une machine, elle n'est plus... cet organe fabricateur, hein, elle est même au service de la machine, on pourrait dire.
Alors, nous sommes à la moitié de cette émission, nous n'avons parlé que de la main dans cette émission sur la technique, donc je vous propose qu'on essaye dans un second temps, avant d'arriver à cette deuxième partie, peut-être c'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'on peut proposer une transition, hein, de dire que finalement, les réflexions que propose Aristote ou Laura Gourhan s'en tiennent à une conception de l'outil, du corps qui lui-même serait comme un outil. Or, dès qu'on essaie d'aborder les choses d'un autre angle, en prenant en compte la machine que vous avez évoquée, même les technologies, alors cette position ne tient plus.
Absolument.
Est-ce que ce serait une bonne transition pour aller dans...
C'est une excellente transition. La technique est naturelle à l'homme, soit, nous l'avons posée dans la première partie, est-ce qu'on peut encore le dire à l'âge des machines ? Est-ce que la machine, dont les capacités sont infiniment supérieures à celles du corps humain, peuvent être encore considérés comme naturels. Là, ça me semble beaucoup plus difficile, ça me semble être une position beaucoup plus difficile à tenir. Donc c'est pourquoi, dans une deuxième partie, j'envisagerais plutôt que la machine est plutôt un fait social, culturel, qui voue l'humanité au progrès, c'est-à-dire à la sortie progressive de la nature pour entrer dans la culture et le progrès.
Robinson avait créé un début de cheptel dans l'île, après avoir ensemencé sa terre. Comme l'humanité de jadis, il était passé du stade de la cueillette et de la chasse à celui de l'agriculture et de l'élevage. Il s'en fallait pourtant que l'île lui parût désormais comme une terre sauvage qu'il aurait su maîtriser, puis apprivoiser pour en faire un milieu tout humain. Il ne se passait pas de jour que quelque incident surprenant ou sinistre ne ravive l'angoisse qui était née en lui à l'instant où, ayant compris qu'il était le seul survivant du naufrage, il s'était senti orphelin de l'humanité. Le sentiment de déréliction assagi par la vue de ses champs labourés, de son enclos à chèvres, de la belle ordonnance de son entrepôt, de la fière allure de son arsenal, lui sauta à la gorge le jour où il surprit un vampire accroupi sur le garrot d'un chevreau qu'il était en train de vider de son sang. Les deux ailes griffues et déchiquetées du monstre couvraient comme d'un manteau de mort la bestiole qui vacillait de faiblesse. Ce matin-là, Robinson avait brisé sa houe et laissé échapper sa meilleure chèvre laitière. Cette scène acheva de l'abattre. Pour la première fois depuis des mois, il eut une défaillance et céda à la tentation de la souille. Reprenant le sentier des pécaries qui conduisait au marécage de la côte orientale, il retrouva la mare boueuse où sa raison avait tant de fois déjà chaviré. Il ôta ses vêtements et se laissa glisser dans la fange liquide.
Les nouveaux chemins de la connaissance, notre semaine Bac Philo que nous enregistrons cette année au lycée français Jean Monnet de Bruxelles. C'est donc ce lycée qui nous accueille. Nous avons déplacé nos micros pour toute cette semaine, qui est une journée pour nous en réalité. Nous enregistrons les 4 émissions en une journée. Nous traitons le sujet suivant, la technique est-elle naturelle à l'homme, en compagnie du professeur de philosophie Hugues Marmina et de ses élèves. Alors, deuxième partie, Hugues Marmina, vous l'avez dit, dans une deuxième partie, vous allez essayer de concevoir une technique qui soit plus culturelle que naturelle et, oui. Et que même plus loin que ça, que la technique éloignerait l'homme de la nature.
Oui, tout à fait.
Alors, on a entendu juste avant un très beau texte de Michel Tournier, « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Deux choses à propos de ce texte. Déjà, il est très très riche, alors je vous laisserai le présenter pour les besoins de votre développement. Mais dans un premier temps, disons-le clairement, les références non philosophiques sont tout à fait autorisées au sein d'une dissertation de philosophie le jour du bac.
Tout à fait, il n'y a aucun problème. On peut mobiliser des musiques, comme vous venez de le faire, des films et bien sûr de la littérature. C'est très bienvenu. D'autant que les textes philosophiques ont peut-être ce défaut d'être souvent trop généraux. Ici, c'est très intéressant de voir un homme concret. Hein, on disait de quel homme parle-t-on ? Ici, on parle de Robinson, confronté à une difficulté technique et dans son rapport à la nature. Et ça me semble particulièrement intéressant d'illustrer des thèses philosophiques par des exemples littéraires.
Alors, pourquoi Robinson en particulier ?
Alors, Robinson, c'est un cas très intéressant. Le texte est d'une richesse incroyable. Parce que d'abord, il semble nous montrer qu'effectivement, la culture commence avec l'agriculture. La culture consiste à sortir de la nature ou à demander à la nature ce qu'elle ne produit pas d'elle-même. Hein ? Il s'agit ici de d'ensemencer la terre et de tirer d'elle ce qu'elle ne donne pas spontanément, puis de domestiquer des animaux afin d'en tirer de l'alimentation. Et d'en tirer aussi un usage par ailleurs agricole. Ils vont nous aider dans les travaux agricoles. Donc il y a déjà quelque chose ici d'intéressant. La culture, c'est l'agriculture. Or, Robinson est dans une difficulté inouïe, c'est qu'il est seul sur cette île. Et d'ailleurs, juste avant ce passage, on voit Robinson, rescapé du naufrage, essayer de recueillir de façon frénétique absolument tous les objets techniques, non seulement qui pourraient lui être utiles, mais également des objets anodins dont il ne fera aucun usage particulier sur l'île. Comme si les objets techniques auxquels il se rattache le renvoyaient à un monde humain qu'il a perdu.
Et comme si sans la technique, il ne pourrait pas survivre. Si la technique était indispensable à la survie.
La technique est indispensable à la survie. Il en fait l'expérience ici douloureuse. Parce que ce pauvre Robinson doit réinventer, doit refaire l'histoire depuis le départ. Il doit réinventer les techniques ancestrales. Il doit, en quelque sorte, reproduire l'évolution de son espèce à l'échelle de son individualité. Et on voit ici son énorme difficulté. La technique, c'est une lutte violente contre la nature. Si les hommes ont réussi, c'est parce qu'ils étaient plusieurs, c'est parce qu'ils étaient en société. Si Robinson échoue dans ce texte, c'est en grande partie parce qu'il est seul.
Voilà, le problème n'est pas tant la technique, la défaillance de la technique, que son caractère inhumain ici, de par sa solitude.
Absolument. Et d'ailleurs, on sait très bien que cette tentative avortée de reconstruire un monde humain par la technique et sans la société est impossible, et que Robinson n'y parviendra qu'à partir du moment où Vendredi interviendra. D'où d'ailleurs le titre du livre. Hein, c'est un livre qui parle de Robinson du début jusqu'à la fin, mais le titre du livre, c'est Vendredi ou les limbes du Pacifique. C'est-à-dire que sans Vendredi, il n'y a plus de Robinson. Robinson disparaît, comme la suite du texte nous le montre. C'est-à-dire que n'ayant plus la force de progresser techniquement, il entre dans une phase de régression quasi minérale. Il fait une espèce d'évolution à l'envers ou d'involution.
Avec cette très belle image où il se laisse glisser dans la fange.
Il se laisse glisser dans la fange.
Comme s'il disparaissait dans la nature.
À la fin, on a l'impression qu'il retourne à la naturalité la plus nue. Il se déshabille. Il retourne à la boue. Moi, ce passage me fait penser à une image biblique très, très forte. La boue dont il a été tiré symboliquement, comme Adam, il y retourne. ce qui sort en quelque sorte et Adam et Robinson de la nature, c'est la présence de l'autre, c'est Ève et c'est Vendredi.
Alors que reste-t-il de la technique ici dans cette histoire, si j'ose dire? Nous sommes dans la deuxième partie de notre dissertation, on a évoqué ce texte-là. La technique ici paraît plutôt indispensable à la survie. On semble aussi mettre au second plan la question de savoir si elle est naturelle à l'homme ou pas. Donc comment est-ce qu'on essaie de rattacher notre développement au sujet?
Alors justement, il me semble que dans cette deuxième partie, il faut absolument axer notre thèse sur l'idée que la technique n'est pas du tout naturelle. On le voit bien ici avec Robinson. Robinson, seul face à la nature, ne parvient pas, ou très peu, à progresser techniquement. La technique est un fait social, elle est un fait culturel. Nous héritons des progrès techniques des générations précédentes qui nous permettent d'innover à nouveau. Et ce qui surtout a changé totalement, c'est l'intervention de la science dans le processus de création des techniques. On peut dire que, de façon primitive, la technique a précédé la science. L'homme a d'abord été homo faber avant d'être homo sapiens.
Mais d'abord fabriqué avant de.
Il a d'abord fabriqué avant d'être homme de science. Il a d'abord eu un usage pratique des outils avant d'avoir une connaissance théorique de la nature. Mais évidemment, à partir du XVIe, du XVIIe siècle, à partir du moment où la science se développe, la connaissance de la nature devient si précise et si poussée que les outils qui en découlent donnent une puissance démultipliée sur la nature elle-même. Et de fait, on pourrait penser comme Descartes, c'est la référence peut-être majeure à laquelle je penserais, que cette nouvelle science peut nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Non seulement l'homme s'écarte de la nature, mais il la domine.
Et souvent, quand un professeur de philosophie évoque cette phrase, il insiste sur le « comme » maître et possesseur de la nature, puisqu'il s'agit d'une image. Donc, ce n'est pas une invitation à dominer la nature.
C'est une invitation à connaître la nature pour la transformer, pour l'utiliser à ses propres fins. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des hommes. Et il s'agit surtout, connaître la nature, c'est aussi connaître la façon dont les maladies atteignent le corps et comment on peut les soigner. Ce à quoi pense Descartes, c'est essentiellement au progrès de la médecine.
Alors c'est au livre 6 du discours de la méthode qu'on trouve cette phrase. Est-ce qu'on ne peut pas vous objecter, peut-être, on pourrait le faire, en tout cas je le fais, voilà, vous allez me dire ce qu'il en est, pour un sujet qui traite de la technique, de ne pas avoir encore vraiment convoqué de références plus contemporaines liées à la technologie. Est-ce que vous les gardez pour la troisième partie?
Je les garde pour la troisième partie.
Voilà, et donc c'est tout à fait justifié de faire deux parties en parlant de la main et de Descartes, et sans du tout
évoquer d'autres questions. Puis des machines. Avec Descartes, on entre dans l'âge des machines, des automates. Ça change complètement la perception qu'on a du rapport de l'homme et la technique. Descartes, à partir de l'observation des automates, c'est-à-dire de machines qui se meuvent elles-mêmes, c'est-à-dire qui imitent la vie, en tire l'idée intéressante que le corps humain, le corps des animaux, est comme une machine. Vous voyez, on retrouve le comme.
Il parle de l'homme-machine, hein, d'ailleurs, comme la suite de la maîtrise.
Il parle de l'homme-machine. Voilà, la maîtrise parlera de l'homme-machine. Descartes parle plutôt du corps-machine parce qu'il tient à distinguer l'âme et le corps. Et de l'animal-machine. Ce qui devient intéressant ici, c'est que la technique devient le moyen de connaître la nature. Dire que le corps est comme une machine, c'est utiliser les machines fabriquées par nos artisans et nos ingénieurs comme moyen de connaissance de la nature. C'est un renversement complet. La technique n'est plus du tout le prolongement de la nature, c'est l'inverse. C'est comme si la nature était elle-même technique. Nous nous approprions ce que nous ne connaissons pas, la nature, en projetant sur elle ce que nous connaissons très bien parce que nous l'avons fabriqué, nos machines.
Un mot quand même sur ce que vous dites dans cette deuxième partie, c'est que à partir de ce constat que vous faites, des analyses que vous proposez, on peut aller dans deux directions, puisque finalement, vous faites un constat axiologiquement neutre, c'est-à-dire voici comme la technique sert à cela, la technique nous permet ceci. On peut soit tirer cette utilisation dans un sens très favorable à l'homme, ou au contraire considérer que cette utilisation de la technique par l'homme lui est profondément néfaste.
C'est ça. Disons que dans cette deuxième partie, je serais volontiers enthousiaste à la suite des philosophes classiques et rationaliste, Descartes, puis toute la philosophie des Lumières. Vous parliez de la maîtrise. Il est extrêmement enthousiaste à l'égard des progrès de la technique. C'est le cas de Diderot, c'est le cas de toute l'encyclopédie, parce qu'il pense que le progrès technique va engendrer un progrès humain. Et de fait, il y a une idée ici très intéressante. C'est que la technique n'est pas naturelle à l'homme, puisque par la technique, l'homme s'humanise. C'est-à-dire, justement, parvient à se dépouiller de ce qui reste en lui de naturel. Parvient à dépasser sa nature.
Il ne s'agit que d'un prototype, mais il aura déjà fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Au même titre que la smartwatch, lancée par Samsung en septembre, les Google Glass s'inscrivent dans cette nouvelle lignée de produits technologiques que l'on porte sur soi. Du point de vue de Google, ces lunettes devraient en effet permettre à l'utilisateur d'être plus ancré dans le réel en lui laissant les mains libres. Après avoir prononcé la phrase magique
« Ok Glass, Ok Glass, Ok Glass, Ok Glass »,
on peut faire une recherche sur Internet.
Google Images of Dogs.
On peut également trouver son itinéraire.
Get directions to the theater.
Ou pourquoi pas prendre une photo.
Take a picture.
En plus du fait que filmer discrètement devient un jeu d'enfant, par défaut, toutes les images enregistrées transitent par les serveurs de Google.
Si les références littéraires, cinématographiques, musicales sont les bienvenues, les références à l'actualité aussi. En l'occurrence, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marmina, mais comme transition vers une troisième partie, cet exemple des Google Glass, qui donc semble greffer à l'homme un instrument technique comme pour prolonger, développer son humanité, nous sert sur un plateau peut-être, nous aide à pointer les dangers d'une utilisation, d'une naturalisation de la technique par l'homme.
C'est ça. Dans cette troisième partie, on va développer l'idée selon laquelle les techniques aujourd'hui, les nouvelles technologies sont si précises, sont si miniatures, sont si incroyablement performantes qu'elles augmentent incroyablement les capacités du corps humain. Les techniques, c'est peut-être, on pourrait dire, si on voulait faire un jeu de mots, que c'est la technique elle-même qui a changé de nature. Depuis quelques années, la technique a changé de nature, elle s'incorpore au corps, elle démultiplie ses potentialités. Un nouvel être humain semble émerger. Comme si la technosphère avait remplacé la biosphère. L'homme n'est plus du tout, j'allais dire, un être naturel, ou plus seulement un être naturel. Il est déterminé par ses techniques. Elle le détermine absolument dans tous ses usages, dans tous les aspects de sa vie, et même dans son corps.
Alors, pour essayer d'étayer ce qui, sans cela, ne serait qu'une opinion qui n'engage que vous, de quel philosophe ou quel texte philosophique est-ce que vous vous servez pour argumenter dans cette direction ?
Alors, je pense à deux textes importants. D'abord, un texte plutôt technophobe, on va dire. C'est le texte de Günther Anders, qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ».
Alors, peut-être vous nous présenter, parce qu'il n'est pas forcément connu des élèves.
Oui, alors, c'est un texte dans lequel Anders... Qui écrit un journal, c'est l'extrait d'un journal qu'il a tenu en Californie et dans lequel il développe une critique de la civilisation qui est axée sur le décalage entre la perfection des machines et sur la défectuosité de l'homme. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme est présenté comme obsolète, c'est-à-dire comme dépassé, périmé, dépassé par la perfection des machines. Comme si les machines, qui représentent à la fois la victoire de l'intelligence humaine, les machines sont créées par l'homme, mais elles sont tellement parfaites que l'homme en éprouve comme une honte prométhéenne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les outils, les machines sont tellement perfectionnées aujourd'hui qu'elles semblent constituer une catégorie d'êtres supérieurs avec laquelle nous ne pouvons plus rivaliser. Les machines sont infiniment plus performantes que nous. Bien sûr, les machines sont elles-mêmes obsolètes, au sens où on connaît très bien le processus d'obsolescence programmée et nos machines ne durent pas indéfiniment. Mais chaque nouvelle machine est remplacée par une plus performante qui ne fait qu'accroître le sentiment d'infériorité de nos propres capacités.
Et ça, c'est une référence qui est utilisée par un élève en terminale,
je pense,
Anders.
Oui, tout à fait.
Vous l'enseignez ?
Ça m'arrive.
et vous parliez d'un autre auteur aussi pour cette troisième partie ?
Alors, peut-être dans sa version plus positive, et pour terminer sur une note plus joyeuse, c'est le magnifique livre de Michel Serres qui s'appelle « Petite poussette » et qui évoque la naissance d'une nouvelle génération d'êtres humains que les Anglais appellent « digital natives », ceux qui sont nés avec l'ère digitale et qui vont, espère Michel Serres, développer de nouvelles facultés cognitives. Elles vont en perdre d'autres. Elles vont perdre peut-être des facultés cognitives anciennes, mais ce qu'elles vont perdre va laisser la place à de nouvelles potentialités.
Et il prend comme exemple précis le mouvement du pouce, justement, même des deux doigts sur un iPad ou une tablette. Les enfants, maintenant très jeunes, apprennent à zoomer avec ce mouvement des deux doigts, ce qui paraît fascinant, ce que certains peuvent déplorer. Et en même temps, dit-il, c'est aussi pour l'enfant l'occasion d'explorer de nouvelles potentialités humaines que la génération précédente n'avait
pas
explorées.
C'est ça, ceux qui le déplorent, ils les appellent les papiers ronchons, les technophobes. manque de perspective historique. Lorsque nous sommes passés de l'oral à l'écrit, il y avait également de quoi être anxieux. En passant de l'oral à l'écrit, on perd des capacités de mémoire, mais colossales. Seulement, on voit tous très bien ce qu'on a gagné. En passant de l'écrit à l'imprimerie, c'est la même chose. C'est l'âge de Montaigne qui dit « Oui, mais je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. » Petite Poucette, elle-même, est destinée maintenant à porter sa tête entre ses mains, comme Saint-Denis, à tenir sa tête entre les mains. Le savoir n'est plus dans sa tête, il est dans la machine, à elle de savoir l'utiliser au mieux.
Nous sommes obligés de rendre la copie. En un mot, à la question « La technique est-elle naturelle à l'homme ?» Que répondez-vous et comment concluez-vous très rapidement ?
Je vais dire que la technique n'est plus naturelle à l'homme au sens où elle n'est plus le prolongement naturel de son corps. Elle est redevenue naturelle, c'est devenu une seconde nature, quelque chose qui s'impose à elle et avec laquelle elle doit composer.
Merci beaucoup Hugues Marmina d'être venu de nous avoir accueillis pour analyser ce sujet. La technique est-elle naturelle à l'homme ? Vos élèves ont bien de la chance, alors je vous félicite et puis je les remercie d'avoir été si attentifs. Et vous pouvez féliciter votre professeur également. Je crois que tout le monde vous met un 20 sur 20. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour clore cette semaine spéciale Bac Philo, découverte aujourd'hui d'un philosophe fascinant en terminale et encore après, Nietzsche, à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage collectif qui lui est consacré aux éditions du magazine littéraire. Nietzsche est l'un des philosophes les plus mal compris. Une image sulfureuse lui colle à la peau. Il a soit l'image de l'esprit libre, le poète philosophe inclassable, soit l'image de celui qui a nourri la pensée de futurs fascistes. Mais dans les deux cas, le problème est que Nietzsche est toujours compris en termes d'influence, de coloration politique et rarement lu pour lui-même et pour sa pensée. Et pourtant, Nietzsche est bien un philosophe en tant que tel, difficile mais incontournable, et ça dès la terminale. Pour redécouvrir l'œuvre de Nietzsche dans différentes perspectives, tenter de déceler la teneur de ses textes, qu'il s'agisse d'art, de modernité ou encore de voir comment il a été lu par d'autres philosophes, comme Foucault par exemple, les éditions du magazine littéraire proposent alors de poser un nouveau regard sur cette œuvre à partir de contributions de philosophes toutes réunies ici. Alors cet ouvrage est plus ardu que les autres livres que j'ai présentés cette semaine, mais il n'en est pas moins pédagogique, car il développe à chaque article une problématique précise de l'œuvre de Nietzsche et tente d'aller au-delà des lieux communs. Par exemple, les rapports de la philosophie à la civilisation européenne et grecque, qui sous-tendent sa conception de la philosophie. Les rapports aussi de la philosophie à l'art en général et au génie de Wagner en particulier, mais aussi la question des valeurs ou celle plus inattendue de la marche. Cet ouvrage est donc une excellente manière non seulement d'apprendre à connaître Nietzsche et d'être plus proche de ses textes, mais aussi de voir comment un philosophe peut être lu et relu, réinterprété sans cesse, comment la philosophie en fait ne cesse d'évoluer et est une pensée vivante. Cela donnera sûrement en plus envie aux élèves de faire de la philosophie au-delà de la terminale. Et pour prolonger cette semaine spéciale Bac Philo et vous préparer au mieux à cette épreuve, retrouvez le livre « Réussir le Bac Philo » publié chez Fayard et les éditions France Culture, sorti tout juste hier. 4 dissertations et 4 explications de textes décortiquées par 8 professeurs de philosophie avec vous, Adèle, du langage chez Rousseau au bonheur chez Pascal, en passant par le temps et la culture.
Merci beaucoup Géraldine et puis à demain, puisque demain, exceptionnellement, c'est vous qui présenterez les chemins du vendredi et vous nous parlerez de Jacques Ellul. Cette série d'émissions vous est proposée en partenariat avec Philosophie Magazine, qui, comme chaque année, publie ce mois-ci un hors-série spécial Bac Philo. Un grand merci au lycée français Jean Monnet de Bruxelles, à Evelyne Régnier, sa proviseure, au service culturel de l'ambassade de France de Belgique, ainsi qu'à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à Hugues Marmina, qui nous ont tous aidés à organiser cette série d'émissions enregistrée à Bruxelles en janvier dernier. Et merci également aux professeurs courageux ainsi que leurs élèves qui ont assisté tout au long de cette journée à l'enregistrement de ces émissions. Et bon courage à eux.